Contemplant ta beauté, confessant que tu es merveilleux. Et nous savons que nous ne confessons pas des paroles vaines ou vides de sens. Nous confessons la vérité, tu es merveilleux. Et Seigneur, nous sommes ici ce soir pour te rencontrer. Si nous sommes sérieux avec toi, tu es sérieux avec nous. Car il y a tant de besoins au milieu de nous, tant de souffrances cachées, tant d'aspirations aussi, que tu veux poser ta bonne main sur nous. Seigneur, nous nous attendons à toi. Prépare les cœurs à chacun d'entre nous, qu'aucun ne soit distrait par qui que ce soit, mais que nous soyons tous attentifs à ta voix et te recevoir pleinement dans nos cœurs ce soir. Seigneur, si tu es là au milieu de nous, quelque chose peut se passer et nous nous attendons à quelque chose ce soir, à quelque chose de bon. Merci, Seigneur. Oh, à toi la louange, à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Gloire à son nom.
Alléluia.
Il est bon d'être avec lui. Vous ne trouvez pas? C'est sa présence qu'il vous faut. Ce ne sont pas tellement mes paroles. Ce ne sont pas tellement les paroles d'un prédicateur. Mais c'est la présence de Dieu qu'il vous faut. Nous avons été créés pour vivre dans cette présence. Et nous ne pouvons pas vivre sans cette présence. Que son nom soit béni. Nous allons chanter encore le petit chœur que nous avons appris hier soir, la prière de David. Ô Dieu, après, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qui est-ce qui a cette prière au fond du cœur? Levez la main, ceux qui ont vraiment cette prière au fond du cœur. Alors nous allons la chanter comme une prière ce soir. Je vais demander à Dorothée de venir. Restons donc dans un esprit bien disposé, dans un esprit de prière. Laissons encore le Seigneur agir au milieu de nous. Que son nom soit béni.
Oh
Écritures maintenant, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, et que ta parole soit vraiment esprit et vie pour nous ce soir. Merci Seigneur, nous nous attendons à toi, et que tout exalte et glorifie le nom, au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Que nous adorons et bénissons. Amen. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il y a ce chapitre merveilleux qui nous parle du Seigneur Jésus, spécialement dans son humiliation et ensuite dans son élévation jusque dans la gloire de Dieu. C'est un des chapitres les plus extraordinaires de la parole de Dieu. Et nous allons voir ce soir, au travers de ces quelques versets que nous lirons tout à l'heure, quel est le véritable signe de la grandeur. Nous parlons beaucoup de grandeur dans ce monde, mais la grandeur de Dieu et la grandeur des hommes est tout à fait différente, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on voit ensemble quel est le véritable signe de la grandeur. Comment Dieu nous mesure-t-il? Sa mesure n'est pas comme la mesure des hommes. Nous avons, nous, notre mesure de la grandeur. Mais Dieu a sa propre mesure de sa propre grandeur, n'est-ce pas vrai? Quel est donc le véritable signe de la grandeur? Je pense que vous l'avez deviné comme moi, d'après le passage que nous lirons, c'est l'humilité. L'humilité est véritablement le signe que quelqu'un est dans la main de Dieu. L'humilité est vraiment le sceau que Dieu met sur la vie de quelqu'un. Et s'il y a une qualité, chers amis, que nous devons rechercher ardemment dans notre vie, c'est bien celle-ci. L'humilité est vraiment la beauté du caractère de Jésus. Savez-vous que nous pouvons manifester beaucoup de dons? Savez-vous que nous pouvons avoir beaucoup de capacités? Savez-vous que nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu? Mais laissez-moi vous dire une chose. S'il manque une seule chose dans votre vie, dans ma vie, s'il manque une seule chose, et cette chose étant l'humilité, tout le reste est gâté, n'est-ce pas vrai? Tout le reste est gâté. Tout le reste est comme quelque chose que nous ne pouvons totalement et pleinement accepter. C'est pourquoi l'importance de l'humilité est capitale. Si nous voulons que le sceau de Dieu soit sur nous, et si nous voulons que notre vie et notre ministère soient acceptés aux yeux des hommes aussi, n'est-ce pas vrai? S'il y a donc une qualité dans laquelle nous devons progresser, c'est bien celle-ci. Alors j'aimerais vous donner ce soir 4 pensées précises concernant la véritable humilité. Car vous savez, l'humilité n'est pas toujours ce que nous pensons. Certaines personnes pensent qu'elles sont humbles parce qu'elles se culpabilisent tout le temps. Certaines personnes pensent qu'elles sont humbles parce qu'elles sont minées par un esprit d'infériorité. Alors elles pensent qu'elles sont humbles. Certaines personnes sont paralysées par un esprit d'indignité. Elles pensent qu'elles sont humbles. L'humilité n'est pas cela. Qu'est-ce que la véritable humilité? C'est ce que nous verrons maintenant en prenant quelques passages. Lisons donc Philippiens chapitre 2. À partir du verset 1er, lisons les 11 premiers versets. Philippiens chapitre 2, les 11 premiers versets. Si donc il y a quelque compassion, quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous reviendrons sur ce verset tout à l'heure. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ou comme une autre version dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que le Seigneur inspire et bénisse sa parole. Il s'est humilié lui-même. Quand les Écritures nous parlent de l'humilité, elles ne nous demandent jamais de demander à Dieu de nous humilier. C'est toujours quelque chose que nous devons faire nous-mêmes. Beaucoup demandent à Dieu l'humilité, mais Dieu vous demande de vous humilier. C'est quelque chose de très important parce que nous faisons des prières qui ne seront jamais exaucées. Chaque fois qu'il est question donc d'humilité, ce n'est jamais une prière qui monte vers Dieu pour dire « Oh Seigneur, rends-moi humble ». Il s'est humilié lui-même. Et il y a tant d'autres passages. « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Il est donc toujours question de le faire nous-mêmes. Bien sûr avec la grâce de Dieu, mais si nous le faisons nous-mêmes, alors Dieu fera aussi sa part et sa part sera de nous élever. Et ce qui est merveilleux avec l'esprit d'humilité, c'est que une fois que nous sommes dans cet esprit-là, Dieu nous élève. Autrement dit, il nous donne une autorité spirituelle. Il n'y a pas d'autorité spirituelle dans la vie de qui que ce soit sans esprit d'humilité. C'est pourquoi le chemin de l'autorité spirituelle passe par l'esprit d'humilité. Parce que Jésus s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné la gloire. Et lui a donné l'autorité. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Je crois que nous désirons tous avoir de l'autorité spirituelle. Je crois que nous désirons tous que nos vies portent du fruit. Mais quel est le sceau qui permettra à Dieu d'agir dans notre vie? C'est cet esprit d'humilité. Oh, que Dieu exauce nos prières et nous transforme ainsi à l'image de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et quelles étaient ces pensées? Ces pensées étaient précisément des pensées d'humilité. Et j'aimerais vous donner quatre pensées maintenant qui vont définir ce qu'est la vraie humilité. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a quatre pensées précises que nous devons tous savoir pour expérimenter cette humilité que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ce que Jésus a été, nous pouvons et nous devons le devenir. Le croyez-vous? Alors, voici la première pensée que nous devons tous avoir. Nous devons réaliser notre dignité céleste de fils de Dieu. Savez-vous que si nous devons nous humilier comme Jésus s'est humilié, avant que Jésus s'humilie, avez-vous remarqué quelque chose de très important? Il est justement parlé de l'Esprit du Seigneur en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu lui-même. Il fallait donc que, avant qu'il s'humilie, et celui qui s'humilie doit d'abord et avant tout réaliser sa position céleste et divine. C'est pourquoi Jésus a pu s'humilier, parce qu'il était conscient de sa dignité de Fils de Dieu. Alors, comme il était honoré en tant que Fils de Dieu, alors pour lui, ce n'était plus un problème. Bien sûr, la souffrance était là, mais il pouvait s'abaisser, il pouvait encore s'abaisser sans que rien ne l'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il n'attendait plus rien des hommes. Ce n'était pas les hommes qui faisaient sa réputation. Il était conscient en lui-même qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était honoré par son Père. Et voilà pourquoi Jésus a pu s'abaisser, parce qu'il était conscient de sa dignité de Fils de Dieu. Savez-vous qu'il en est de même pour nous, chers amis ? Si nous voulons vraiment nous humilier, si nous voulons vraiment passer par le chemin de l'abaissement, nous ne pourrons le faire que si nous sommes conscients de notre dignité de Fils de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous ne sommes pas conscients de notre dignité de Fils de Dieu, nous allons tout faire lorsque quelque chose n'ira pas. Nous allons tout faire pour défendre notre réputation. Et on va rouspéter tout le temps. On dira, mais c'est pas possible. Comment est-ce que vous me traitez? C'est pas normal, la manière dont vous me traitez. Alors nous rouspétons, vous comprenez? Et c'est ainsi que beaucoup rouspètent. La moindre humiliation les bloque et les empêche d'avancer avec Dieu. Pourquoi cela? Parce que ils n'ont pas eu conscience de leur dignité de Fils de Dieu. Quand nous sommes honorés par Dieu, peu importe que les hommes nous déshonorent. Amen. N'est-ce pas merveilleux cela? Donc, le chemin de l'humilité, qui est difficile pour chacun d'entre nous, je le sais, et pour moi en premier, passe premièrement par cette pensée que nous devons avoir comme Jésus a eu, et qu'il est dit de lui-même, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, voyez-vous, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Donc cette pensée était en lui, il était conscient de sa divinité et de l'honneur qui lui appartenait. C'est pourquoi, quel que soit le chemin par lequel il était passé, son Père l'honorait toujours. Amen. Et peu importe ce que les hommes pouvaient le faire. Et il en est de même pour nous, chers amis. Si nous voulons suivre l'exemple de l'humilité de Jésus, si nous voulons accepter d'être piétinés, d'être rejetés, d'être humiliés, et nous le serons, si nous voulons tenir dans ces conditions-là, alors il faut que dans le fond de notre être, nous ayons la révélation que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, que nous sommes assis dans les lieux célestes, que nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant, que nous sommes honorés par Dieu, que nous sommes chouchoutés par Dieu, et que si les hommes nous rejettent, Dieu lui-même est tout pour nous et nous honorera toujours. Amen. Alors si nous sommes conscients de cela, peu importe ce que vous me faites, vous voyez, vous ne marchandez plus auprès des hommes pour qu'ils vous respectent. Combien d'entre nous nous marchandons auprès des uns et des autres? Je dis, on t'aurait pu être un peu plus gentil avec moi. Pour qui tu m'as pris, là? Pour qui tu m'as pris? Tu m'as pris pour un esclave? Tu m'as pris pour un pauvre type? Alors nous respectons. Mais peu importe ce que l'autre nous dit, peu importe ce que l'autre nous fait, devant Dieu, nous savons qui nous sommes. Nous sommes des fils du Dieu vivant.
Nous avons la dignité de fils. Voilà pourquoi nous pouvons nous abaisser. Avons-nous compris cela? Voilà pourquoi Jésus a tenu le coup. Voilà pourquoi nous pourrons tenir le coup nous-mêmes. Quel que soit le chemin de l'humiliation, si nous avons cette vision, cette pensée, que nous sommes dignes aux yeux de Dieu, en tant que fils de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire cela? Alors vous n'attendez plus rien des hommes. Votre Père vous honorera et vous gardera, quel que soit le chemin par lequel vous passez. Amen. Voilà donc une première pensée extrêmement importante. Sinon, je le répète, la moindre humiliation sera pour nous un grand fardeau, un grand blocage. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont arrêtés sur leur chemin, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas accepté certaines humiliations. Et c'est une blessure profonde en eux. Ils ont été blessés par les hommes. Et qui n'est pas blessé? Dites-moi un petit peu, qui n'est pas blessé? Alors pourquoi restent-ils dans cet état-là? Parce qu'ils n'ont pas eu cette pensée que quelle que soit l'attitude que les hommes ont à notre égard, aux yeux de Dieu, nous sommes dignes, nous sommes des dignes fils de Dieu, nous sommes honorés, bénis, choyés, chouchoutés par lui. Amen. C'est quelque chose de très important. Ne l'oubliez pas lorsque vous passez dans la vallée de l'humiliation, dans la prière, dites: Seigneur, c'est formidable avec toi. Si on me déshonore, toi, tu m'honores toujours. Que ton nom soit béni. Cette pensée-là vous gardera et vous guérira et vous délivrera. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux cela? Voyons maintenant une deuxième pensée concernant l'humilité. Nous la trouvons donc au verset 3 qu'on a lu tout à l'heure. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je suis sûr que vous avez lu ce verset combien de fois, et combien de fois je l'ai lu aussi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors voilà le sens de ce verset qui nous donnera la deuxième pensée de ce que signifie l'humilité. C'est l'art, je dis bien l'art, parce que l'humilité c'est l'expression de la beauté du caractère de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. C'est donc l'art. L'art de quoi faire? C'est l'art d'apprécier les dons des autres que nous ne possédons pas nous-mêmes. Je répète parce que c'est important. C'est l'art d'apprécier les dons que d'autres possèdent et que nous ne possédons pas nous-mêmes. Cela, c'est la vraie humilité. Vous auriez pu dire alléluia là. C'est un peu difficile aussi. Je vous donne quelques pilules amères aussi, ça fait rien. Dites alléluia quand même. C'est donc l'art d'apprécier les dons des autres que nous ne possédons pas. Mais combien font cela? Nous, on a l'art de critiquer le don des autres que nous ne possédons pas. On a l'art de rouspéter sur le don des autres que nous ne possédons pas. Nous avons l'art de nous opposer aux dons des autres que nous ne possédons pas. Qu'est-ce donc la vraie humilité? Je me répète, c'est d'apprécier, pas seulement de tolérer. Écoutez bien, vous savez, je parle d'art, de beauté. Alors tolérer, ça ne va pas avec beauté, vous êtes d'accord avec moi? Avec beauté, ça va apprécier. Quand on apprécie, c'est quelque chose de beau, n'est-ce pas vrai?
On dit, on ne tolère pas quelque chose de beau, ça ne se fait pas. Oui, je tolère ta beauté. Ça ne va pas. On apprécie la beauté de quelque chose. Certains d'entre nous, nous tolérons.
Vous dites, oh, frère, mais moi, je ne suis quand même pas contre le don des autres, voyons. Pour qui vous nous prenez, frère, ce soir?
Ah, vous n'êtes pas contre? Mais vous tolérez seulement le don des autres, que vous ne possédez pas. Et en cela, nous ne manifestons pas d'humilité. La vraie humilité, c'est d'apprécier le don des autres que nous ne possédons pas. Et dire, par exemple, quand nous sommes dans une telle situation et que nous savons que l'autre frère a tel don, c'est de lui dire, tu vois, tu me demandes tel travail ou tel secours, mais moi je n'ai pas ce don-là. Va vers tel frère. Il a un don formidable, lui. C'est justement ce qu'il te faut. Va le trouver et je suis sûr que tu seras béni. Avez-vous déjà fait cela?
Comment? Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde doit venir vers moi. Et moi, si j'ai pas le don, je les envoie promener, les gens. Ils n'ont qu'à rentrer à la maison comme cela.
Et en cela, nous ne faisons pas preuve d'humilité, mais d'orgueil. Donc l'humilité apprécie le don des autres que nous ne possédons pas. Oh, si l'Église faisait cela, n'est-ce pas quelque chose de révolutionnaire qui se passerait entre nous? Au lieu de discuter le don de l'autre, au lieu de critiquer le don de l'autre, au lieu de s'opposer au don de l'autre, l'humilité, la vraie humilité, c'est d'apprécier le don de l'autre et dire, mais c'est formidable, dis donc, le Seigneur t'a vraiment béni.
Mais quand les autres sont bénis, on respecte. Quand il est dit « Réjouissez avec ceux qui se réjouissent », nous, quand quelqu'un se réjouit, on pleure.
Et quand il est dit « Pleurez avec ceux qui pleurent », nous, quand il y en a qui pleurent, nous, on est bien contents dans, notre petit coin. Alors, je vous avais bien dit, d'abord, ça devait arriver un jour. Et nous pensons faire preuve d'humilité alors que nous manifestons de l'orgueil dans l'autre. La vraie humilité, c'est d'apprécier le don que les autres possèdent et que nous n'avons pas. Oh, que nous puissions voir cela et faire cela au milieu de nous. Je vous assure, Dieu se manifesterait d'une manière extraordinaire. Pourquoi est-ce que Dieu l'a voulu ainsi? Pour quatre raisons. Quatre raisons toutes simples. Premièrement, pour que tu réalises que tu es limité. S'il y en a un qui pense posséder tous les dons, eh bien, je crois qu'il a besoin de pardon, celui-là. Il a vraiment besoin de pardon s'il croit posséder tous les dons. Si quelqu'un pense être complet en lui-même, suffisant en lui-même, et dire « moi, je n'ai besoin de personne d'autre », quel orgueil, n'est-ce pas vrai? Bien souvent, nous n'osons pas le dire, mais dans le fond de notre cœur, notre attitude montre que nous n'avons pas besoin des autres. Et cette attitude-là est une attitude orgueilleuse. Et Dieu a voulu que cela soit brisé en réalisant premièrement notre limitation. On est tous limités. Afin que la gloire en revienne toujours et toujours au Seigneur. Amen. Premièrement, réalisons que nous sommes limités. C'est une bénédiction. Vous ne pouvez pas exceller dans tous les domaines. L'humilité veut que l'on accepte cela. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu l'a voulu ainsi? Il l'a voulu ainsi pour que l'on, justement, apprécie le don de l'autre. Il veut qu'on apprécie. Parce que ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Quand je parle de dons, je parle bien sûr d'une manière générale. Il veut qu'on apprécie tout ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et troisièmement, vous savez ce qui se passe? Quand nous commençons à apprécier le don que l'autre possède, alors Dieu nous bénit par cette personne-là. Nous sommes bénis nous-mêmes. Savez-vous que certains d'entre nous, nous ne recevrons jamais de dons spirituels tant que nous n'acceptons pas les dons spirituels des autres? Avez-vous réfléchi à cela? Parce que c'est
lorsqu'on commence à apprécier le don des autres, que Dieu, par ses autres, se révèle à nous. Parce que ces dons sont justement pour nous-mêmes et pour notre édification, et nous en avons tous besoin. Celui qui apprécie le don des autres recevra lui-même certains dons et d'autres dons encore. Et quatrièmement, lorsque nous acceptons cela, qu'est-ce qui se passe? En acceptant et en appréciant les dons des autres, alors il y a comme une harmonie qui se manifeste dans le corps. N'est-ce pas vrai? Une harmonie extraordinaire. Chacun commence à agir, à travailler dans un esprit d'unité et d'harmonie extraordinaire. Chacun fait son petit travail et tout le travail sera fait. N'est-ce pas vrai? C'est tout simple ce que je vous dis. Et cependant, nous trébuchons sur les vérités essentielles et élémentaires de la parole de Dieu. Voulez-vous commencer à apprécier le don des autres que vous n'avez pas? C'est cela l'humilité.
Non, je ne veux rien savoir tout ça. Il ne me plaît pas d'avoir son don. Et puis, je n'avais pas besoin, et puis ceci, et puis cela.
Hein? Si c'est un don de Dieu, pourquoi méprises-tu
le don de Dieu? Celui qui méprise le don de Dieu se fait du mal à lui-même, n'est-ce pas vrai?
Tout ce que Dieu donne à l'un et à l'autre ne doit jamais être méprisé. Savez-vous que nous devons avoir cette sensibilité et ce respect de ce que Dieu nous donne à l'un comme à l'autre? Alors voici donc cette pensée, je la répète pour terminer, nous devons apprécier les dons que Dieu donne aux autres et que nous n'avons pas. La troisième pensée maintenant est celle-ci. Dans ce verset toujours, il y a une pensée que nous devons dégager, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il y a une autre pensée maintenant qui est celle-ci. C'est l'art, l'humilité donc, c'est l'art de faire sentir aux autres personnes qu'elle a du prix à nos yeux. C'est cela la vraie humilité. C'est un art de faire sentir à la personne qui est à côté de vous qu'elle a du prix à vos yeux, qu'elle est une personne importante et qu'elle a de la valeur. Cela, c'est la vraie humilité. Et combien le font? Très peu de chrétiens le font. En tout cas, si je devais compter les chrétiens qui sont venus me dire cela, je devrais compter presque sur les doigts de la main. Combien de chrétiens sont venus vous dire « Mais tu sais, je t'apprécie. Tu sais, je t'apprécie vraiment de tout mon cœur. Le Seigneur est avec toi. Vraiment. » Tu es quelqu'un pour moi. C'est cela la vraie humilité. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts seulement, considère aussi ceux des autres. Et cet intérêt doit se manifester dans la famille. C'est là que ça commence. Le mari doit apprécier sa femme et lui dire de temps en temps, chérie, il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi. C'est à la maison que ça doit commencer. C'est à la maison que vous devez dire et faire votre apprentissage. Pour moi, chérie, tu sais, tu es la femme la plus extraordinaire. Un soir, un prédicateur a annoncé un titre de message et ce titre de message disait « Comment faire de votre femme une reine. » Et il avait une mission, et paraît-il que ce soir-là, le soir où il a annoncé ce message, il y a eu le plus de personnes. Tout le monde était très intéressé pour savoir comment les hommes devaient faire de leur femme une reine. Et vous savez, quand tout le monde est venu, alors il leur a dit ceci, écoutez, c'est tout simple. Si vous voulez que votre femme agisse comme une reine, vous devez la traiter comme une reine. Je répète ce que j'ai dit. Si vous voulez que votre femme agisse comme une reine, vous devez la traiter comme une reine. Les gens étaient tous surpris. Ah bon? C'est comme ça, Yves Auvel? Eh oui. Beaucoup de maris agissent à l'égard de leurs femmes comme des esclaves. Font sentir à leurs femmes qu'elles sont des esclaves. Et ils sont étonnés que ça ne marche pas à la maison. Qu'est-ce que la vraie humilité? C'est l'art de faire ressentir à l'autre que vous êtes une personne importante. Et peu de personnes font cela. Et la femme aussi, à la maison, doit faire ressentir un petit peu à son mari qu'il n'y en a pas deux comme lui au monde. Et que si elle devait se remarier, c'est avec lui qu'il se remarierait.
Amen.
Voilà donc la véritable humilité. C'est un art de faire ressentir à l'autre que vous l'appréciez. Faites-vous cela, l'avez-vous fait? Voulez-vous commencer à la maison? Voulez-vous commencer avec vos enfants aussi? Combien de parents découragent leurs enfants continuellement, les déprécient, les déshonorent? Et ce n'est pas étonnant que les parents, les enfants eux-mêmes perdent le respect de leur propre personne. L'humilité, c'est donc l'art de faire ressentir à l'autre qu'il est quelqu'un, qu'on l'apprécie et qu'il a à nos yeux une grande valeur. Faites cela et vous verrez de grandes transformations dans votre propre vie, dans votre foyer et dans l'église. Le croyez-vous? Et je termine maintenant par la dernière pensée que nous allons trouver dans la première épître de Pierre au chapitre 5. 1 Pierre 5:5 concernant l'humilité. Là, il y a une autre pensée très importante. 1 Pierre 5:5 et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, le mot « revêtez-vous » ici, « revêtez-vous d'humilité », dans le texte grec, a une pensée extrêmement intéressante. Dans le texte grec, cela veut dire « se revêtir du tablier d'esclave pour servir ». Autrement dit, l'apôtre dit « revêtez-vous du tablier de l'esclave et servez les autres ». Alors voilà la quatrième pensée maintenant, qui est très importante, concernant l'humilité, c'est l'art de servir les autres avec respect. Parce que lorsqu'un esclave sert son maître, il y a une pensée de respect qui s'y rattache. N'est-ce pas vrai? Alors, donc, qu'est-ce que la véritable humilité? Ce n'est pas dire « je suis humble ». Ce n'est pas dire « oh, mais moi, je suis meilleur qu'un autre ». Qu'est-ce que la véritable humilité? C'est l'art de servir les autres avec respect. Comme un esclave qui prend son tablier d'esclave et qui sert son maître, mais avec dignité et avec respect. Savez-vous qu'il y a plusieurs façons de servir les autres? Il y a 4 façons de servir les autres. Il y a premièrement la façon de se servir qui est de se servir soi-même. Et ça, ce n'est que de l'égoïsme. Combien de personnes ne font que cela? Tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Ils ne servent qu'eux-mêmes. Et ces personnes pensent être humbles, malheureusement. C'est ça la tragédie. Puisqu'ils ne font rien du tout, rien de mal, ils ne vivent que pour eux-mêmes, ils pensent être humbles. Mais cela n'est pas d'humilité, c'est de l'égoïsme. Se servir soi-même, ce n'est pas de l'humilité. Il y en a d'autres qui ne se servent pas eux-mêmes, mais qui se servent des autres. Ça, c'est une tragédie. Alors ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est encore pas de l'humilité. Se servir des autres pour nos intérêts personnels. Savez-vous que Pierre a servi le Seigneur pendant 3 ans, vous le savez, mais en vérité, il n'avait pas servi le Seigneur pendant 3 ans, il s'était
servi du maître pour ses intérêts personnels. C'est pourquoi, au bout de 3 ans et demi, quand Jésus a dit qu'il allait partir, qu'il allait être crucifié, Pierre a complètement perdu les pédales et il s'est dit, mais qu'est-ce que je devais devenir? Donc pendant 3 ans et demi, Pierre n'a pas servi le maître. Il s'était servi du maître. Donc ce n'est pas cela le véritable service, dans l'humilité. Il y a une troisième façon, c'est de servir tout simplement. Dites, mais moi je sers. Mais ce service n'est que l'expression du devoir. On le fait parce qu'on doit le faire. Et cela ne rencontre pas la bénédiction parce que nous le faisons parce que nous sommes obligés de le faire. Ça, c'est servir par devoir ou par obligation. Et il n'y a pas de bénédiction là-dessus. Qu'est-ce donc que le service dans l'humilité? C'est le service dans le respect de la personne. Lorsque vous joignez le respect à votre service, alors là, et seulement à ce moment-là, vous servez dans l'humilité. C'est l'image donc d'un esclave qui sert son maître. Voulons-nous, chers amis, manifester plus d'humilité? Servons avec plus de respect. L'humilité, c'est servir les autres, mais avec respect. Oh, que Dieu mette en nous ces dispositions-là. Et je suis sûr que si nous faisons cela, comme la Bible dit, Dieu fera grâce aux humbles. Il nous accordera au temps voulu ce dont nous avons besoin. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps convenable où Dieu vous élèvera, où Dieu vous exaucera, où Dieu vous bénira, où Dieu vous guérira, où Dieu interviendra. Mais ce temps viendra que dans la mesure où vous vous humiliez, où vous prenez le tablier de l'esclave et que vous servez les autres avec respect. Combien le respect manque dans le peuple de Dieu? Combien, combien? Dans l'Épître aux Romains, il est dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Oh, combien il est doux, il est agréable de se parler avec respect, de servir avec respect. C'est cela la véritable humilité. Et si nous le faisons, Dieu en son temps interviendra en notre faveur, car c'est une qualité qui est agréable à ses yeux. Que son nom soit béni. Seigneur, agis dans nos cœurs afin que cette humilité se manifeste dans notre vie et que nous puissions réellement apprécier le don des autres que nous ne possédons pas, que nous puissions de tout notre cœur faire ressentir à celui qui vit avec nous qu'il est quelque chose, qu'il a de la valeur à nos yeux. Combien de personnes sont négligées, méprisées? On n'en tient absolument pas compte. Et l'humilité, c'est justement l'art de découvrir cela et de faire ressentir à l'autre que s'il n'est rien pour les autres, il est tout pour vous. Et la personne, lorsque elle parle avec vous, elle a le sentiment qu'elle est aimée et que, à vos yeux, il est une personne très importante. Que le Seigneur exauce notre prière. Et c'est ainsi que, sur le chemin de l'humilité, Dieu nous donnera l'autorité spirituelle dont nous avons tous tant besoin pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de nous avoir donné l'exemple toi-même. Et tu nous demandes maintenant d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi. Ô Jésus, nous voici. Prends nos vies ce soir, car nous voulons manifester plus d'humilité.
Ô Jésus, exauce notre prière. Bénis chacun d'entre nous maintenant. Alors que nous te prions, alors que nous venons à toi de tout notre cœur. Merci Jésus. Restons dans la prière maintenant. Ayons quelques instants de prière devant le Seigneur. Si Dieu vous a parlé, obéissez à sa voix. S'il vous a montré quelque chose, dites-lui, oui Seigneur, je veux t'obéir. Dans tel domaine, et faire toute ta volonté. Alléluia. Ayons donc un moment de prière maintenant, dans la présence du Seigneur.